Donc moi je vais vous parler du cas grenoblois. Alors pourquoi ça s'inscrit complètement dans la lignée de ce que viennent d'exposer Catherine Ballet et Catherine Klenka sur un cas plus spécifique qui est le cas grenoblois. Alors pourquoi le cas grenoblois? C'est parce que le patrimoine, enfin disons que l'histoire grenobloise, elle est relativement jeune, c'est-à-dire que elle s'est essentiellement passée, pour ce qui est de son patrimoine, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que Grenoble est né après la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, il s'est passé... comment on fait pour avancer, là? Ah, j'appuie sur les flèches, là. Hein? La souris, j'appuie sur la souris. Comment se fait? Ah, voilà. Donc, alors l'histoire scientifique et technique de Grenoble, elle est ancienne et elle est marquée par quelques faits saillants. Alors moi, je ne suis pas historien, j'ai simplement essayé de sortir quelques faits saillants de toute cette histoire qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Éric Robert, avec lequel je ne me suis absolument pas concerté, va certainement donner un panorama de cette histoire dans son intervention bien plus complet que le mien. Alors je vais quand même citer des choses parce que je trouve que ça a encore des résonances aujourd'hui. Alors vous connaissez tous les automates de Vaucanson, qui était un inventeur génial, et qui aujourd'hui, à travers toute la robotique, trouve des résonances absolument évidentes. L'université au sens propre, au sens moderne du terme, elle est récente parce qu'elle n'a été créée qu'en 1810, dont le premier directeur, je ne sais pas si on pouvait parler de président à l'époque, c'était Joseph Fourier, qui était d'ailleurs aussi préfet de l'Isère. C'est rare de voir des préfets qui font de la science, mais enfin ça existait à cette époque-là. Et puis, parmi les événements qui m'ont semblé importants, il y a eu l'invention du ciment vers 1840 par Vica. Alors vous trouverez le premier ouvrage en béton du monde dans le Jardin des Plantes de Grenoble, au muséum. Donc vous le verrez ce soir, il est dans le... c'est un tout petit ouvrage qui franchit la rivière, une petite rivière artificielle. Il y a évidemment eu toute la ganterie qui a eu des conséquences, des implications importantes pour toute une industrie qui a été l'industrie de l'agrafage et du bouton pression, dont on parlera peut-être après. Ça, c'était, je vais dire, ce qui s'est passé en gros avant le 19e siècle. Et puis, il y a eu l'essor du 19e siècle avec évidemment la Hue Blanche. Donc des noms comme Joyat, Néret, Bergès, qui ont été les promoteurs et les inventeurs des conduites forcées. Et ça a entraîné un développement impétueux de la métallurgie, de la chimie, qui a été marqué par une exceptionnelle synergie, je trouve, entre tous ces industriels qui ont vraiment collaboré pour faire aboutir des projets et qui ont échangé des informations, et qui a débouché très rapidement sur la nécessité de mettre en place des formations. Donc ça a été l'époque où on a créé l'Institut Polytechnique de Grenoble, parce qu'ils ont tous pris conscience du fait que pour faire tout ça, il fallait des ingénieurs, il fallait des scientifiques, et il fallait les former. Donc c'est à peu près à cette époque-là qu'on a vu apparaître le réseau universitaire et scientifique grenoblois. Alors le XXe siècle, il a été marqué par ce que j'appelle l'explosion scientifique de la deuxième moitié, c'est-à-dire ce qui s'est passé à partir de la guerre, de la Deuxième Guerre. Donc il y a eu l'avenue de... Alors il faut citer quand même quelqu'un qu'on cite assez rarement, mais qui a été quand même à l'origine de tout le dispositif, c'est le doyen Gosse. C'est grâce à lui que toute la structure, industrialo-scientifico-universitaire de Grenoble a été mise en place et qui a constitué le terreau à partir duquel des hommes comme Néel, Veil et toute la suite ont pu ensuite développer tout le dispositif. Alors on a vu ensuite le CNRS, l'informatique, je rappelle que l'informatique française est née à Grenoble, avec un homme comme Kunzmann notamment, l'implantation du CEA, le polygone scientifique, les grands instruments, l'ILL, le SRF, l'IRAM, le LCMI, Alors, je ne sais plus si c'est toujours vrai, mais je crois qu'à Grenoble, il y a eu, ou il y a encore, 80% des grands instruments scientifiques français. Donc, ça marque encore le dynamique. Et puis, tout ça, c'est accompagné, évidemment, d'un développement industriel, je vais dire, concomitant, lié à tout ce développement scientifique, marqué par le développement d'une industrie comme celle de Nerpic autour des turbines hydrauliques, l'air liquide, qui est une conséquence de l'invention de ce liquéfacteur que vous trouvez dans le couloir, Merlin-Gerin, puis tout le dispositif de l'industrie chimique, je ne le fais que mentionner, mais qui est évidemment extrêmement important, avec Rhône-Poulenc, Péchinet et toutes les autres, qui lui a démarré aussi dès la fin du 19e siècle. Alors au 21e siècle, on assiste à la continuité et les nouveaux développements qui sont tous quand même le résultat de ce qui s'est passé avant. Donc les neurosciences, les nanosciences, les sciences de l'environnement, et voilà, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, tout ça, ça montre que le potentiel patrimonial du bassin grenoblois, il est vraiment exceptionnel et extrêmement vaste. Alors, je le rappelle, il est plutôt récent, il a environ 70 ans dans sa majorité. Et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs qui ont constitué ce potentiel patrimonial, pour l'essentiel, ils sont toujours là. Donc, par exemple, je citerai que pour faire toute notre opération autour du liquéfacteur, on a pu interviewer longuement son constructeur, qui est le professeur Lacaze, qui est mort depuis, mais enfin qui a été quand même, qui a pu nous raconter vraiment ce qui s'était passé dans cette affaire. Alors la mission PSTC d'Aconite, elle a été confiée en 2004. Je veux dire qu'elle a vraiment démarré en 2005. C'est à ce moment-là que je suis arrivé à Aconite, mais c'est pas moi qui ai tout démarré, bien entendu. Elle couvre l'ensemble des disciplines, et ce qui est bien évident, c'est qu'elle dépasse très très largement les possibilités humaines, matérielles et financières de la simple association Aconite, parce qu'elle couvre toutes les disciplines. Alors je ne veux pas dire que avant Aconite, il n'y a rien d'autre qui se passe à côté. Évidemment qu'il y a des actions patrimoniales qui se déroulent dans un ensemble de structures, de musées, avec lesquels d'ailleurs nous collaborons. Je vais citer, en espérant n'oublier personne, la maison Aristide Bergès, le musée de la chimie, le musée des sciences médicales, le musée de la viscose à Échirolles, et puis le muséum, bien entendu. Mais la caractéristique de toutes ces structures, c'est qu'elles travaillent dans un domaine plus restreint, bien, bien spécifique, souvent adossé à une entreprise ou à une industrie, alors que la mission d'Aconite, encore une fois, c'est une mission extrêmement large. Alors malgré quelques actions entreprises avec succès auprès d'universités, on a fait des choses avec la glaciologie, avec l'université Stendhal et le labo Le Gypsalab, de laboratoire du CNRS à l'Institut Néel, d'entreprises privées avec lesquelles nous développons une collaboration très intéressante et relativement récente, comme Alain Raymond. Alain Raymond, que les Grenoblois connaissent sous le nom de Raymond Bouton, mais dont c'est pas le nom officiel, hein, et qui a été l'inventeur du bouton pression. Des entreprises publiques comme le CIER, qui est le syndicat intercommunal des distributions des eaux, enfin d'une partie des eaux de l'agglomération grenobloise, ou d'autres associations qui sont adossées à des entreprises comme Teddy Mage 38 pour Thales, Estelle, qui sont lyonnais, pour EDF, et puis d'autres. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout ça, on peut faire le constat que le potentiel scientifique, le patrimoine, il est quand même très largement inexploité. Et que il va falloir passer, comme je le dis là, à une étape nouvelle. Alors depuis 2005, Aconite a entrepris un travail persévérant de sensibilisation des acteurs potentiels, les axes de travail. C'est le travail classique, je veux dire, quand on fait du patrimoine, c'est-à-dire on procède à l'inventaire, à la sauvegarde et aussi à la valorisation. Alors moi j'insiste sur la valorisation parce que le travail en direction du patrimoine, ça ne consiste pas uniquement à repérer les objets, à les stocker sur des étagères, et ni même mettre bout à bout des biographies. Je veux dire, ce travail passe par la nécessité d'une contextualisation. On ne peut pas oublier que, par exemple, tout ce développement du patrimoine scientifique grenoblois s'est fait dans un contexte, dans les 70 dernières années, qui était celui des Trente Glorieuses, par exemple, qui correspondait à une période de développement scientifique important, et que derrière chaque objet scientifique, il y a toute cette histoire. Et donc ça, ça fait partie aussi de la mission de sauvegarde du patrimoine, et on se rend compte à ce moment-là que c'est une mission qui est très largement pluridisciplinaire, dans laquelle il faut mettre des conservateurs, des gens de la conservation, mais aussi des historiens des sciences, des philosophes et des sociologues. Alors à Grenoble, il y a toute cette potentialité, ça existe, mais ce n'est pas encore aggloméré dans un potentiel d'action bien défini. Donc maintenant, on en est à, je pense que c'est ma conclusion. Oui, c'est ça. Une phase de passage de relais, c'est-à-dire que on a travaillé pendant toutes ces années à essayer de sensibiliser, mobiliser tous les acteurs potentiels du patrimoine, c'est-à-dire les centres de recherche, les universités et aussi les industriels. Donc ça va être aussi, je crois, l'objet de la discussion de ces journées, comment faire pour définir des projets communs et à faire en sorte que tous ces acteurs-là se rendent compte que le patrimoine, ça fait partie de leur mission. Voilà, merci.